Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 23 janvier. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner dans cette heure du programme en français. Au sommaire de cette édition, dans notre rubrique hebdomadaire, ça s'est passé ce jour-ci, dans notre donc rubrique rétro, nous allons passer en revue un événement qui s'est passé un 23 janvier, c'était en 1983. Bjorn Berg, un des géants du tennis, prenait sa retraite. Et on va voir aussi si Joe Biden sera plus européen que son prédécesseur. Mais avant de développer cela, l'actualité de ce samedi 23 janvier. Au sommaire de cette édition, le gouverneur général voudrait réviser le processus de sélection des récipiendaires des plus grandes distinctions honorifiques d'Australie. Et en France, un troisième confinement paraît inévitable. Et le nouveau mutant de coronavirus paraît plus contagieux et meurtrier. Le gouverneur général David Hawley voudrait un changement du processus de nomination des récipiendaires des distinctions honorifiques de Australia Day. Dans une interview accordée au Herald, M. Hawley a admis que le système actuel de sélection est biaisé contre les femmes et les aborigènes. Le parlementaire travailliste Chris Bowen abonde dans le même sens et demande lui aussi un changement qu'il dit plus inclusif.
Orders of Australia should not be dominated by one particular profession or one particular groups of suburbs or one gender or people of one ethnicity, but reflect Australia. There are good Australians doing great work every day right around Australia in the community, and I don't think that's been reflected in the Order of Australia, and I think the Governor-General has, to his very great credit, recognised that today.
Les recommandations de récompense, donc des médailles honorifiques, sont adressées actuellement au gouverneur général par le Council of Australia Day, un organisme indépendant du gouvernement, mais qui compte en son sein un membre du gouvernement. Ces dernières années, des nominations ont été contestées ou suscité la controverse. Cette année, c'est la désignation de l'ancienne joueuse de tennis, Margaret Court, qui a provoqué une levée de boucliers dans les milieux LGBT. En effet, les défenseurs de la communauté LGBT s'indignent de l'octroi à l'ancienne joueuse de tennis, Margaret Court, de la plus grande distinction de Australia Day et disent que ceci envoie un mauvais message. Ces dernières années, Madame Court a en effet était dans le collimateur en raison de ses remarques hostiles au mariage gay et à l'homosexualité. Elle a déjà reçu une récompense de Officer of the Order of Australia en 2007 et sera promue cette année à une récompense encore plus prestigieuse de Companion of the Order of Australia mardi prochain à l'occasion de l'Australia Day 2021. Selon Audrey Marsh, co-animatrice du lobby des droits des homosexuels en Nouvelle-Galles du Sud, attribuer la plus grande récompense à une personnalité controversée est une insulte pour un grand nombre de personnes.
This award really stings for LGBTIQ Australians. Margaret Court has used her public voice to deliberately harm LGBTIQ Australians with the things that she's been saying. We're really concerned that elevating her award sends a really negative message to LGBTIQ people.
Et sur le plan climatique, une grande partie du sud-est de l'Australie sera frappée par la canicule pendant les 4 prochains jours, avec des températures oscillant aux alentours de 45 degrés. La vague de chaleur qui a commencé dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud devrait atteindre les régions côtières ce week-end et au début de la semaine prochaine, avec des températures à 16 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. L'alerte incendie maximum a été décrétée par la RFS qui, par la même occasion, a appelé la population à se prémunir. Selon Alex Machkowski, un météorologue, cette vague de chaleur exceptionnelle est due à un système de haute pression.
At the moment, we have a large high-pressure system sitting out in the Tasman and an inland trough, and together they're acting to funnel in a hot northerly air mass into the state, and that's really bringing the heat at the moment.
Et la première du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a dit qu'elle a présenté au Premier ministre une proposition visant à utiliser des campements miniers dans les milieux ruraux du Queensland pour y mettre en quarantaine des voyageurs arrivant de l'étranger. Madame Palaszczuk a rencontré le Premier ministre en aparté en marge du cabinet national hier. Elle avait déjà annoncé cette mesure en passant et selon la première du Queensland, cette option, si elle était adoptée, permettrait de rapatrier un plus grand nombre d'Australiens actuellement coincés à l'étranger.
I put to the Prime Minister some options about where we could look at some alternative quarantine away from our capital city. Details of the proposal will be going more formally to the Prime Minister, but we looked at a number of options involving both Gladstone and Toowoomba.
Et en Europe, la Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi prochain et ce jusqu'au 1er mars. Bruxelles affirme vouloir endiguer la propagation du coronavirus et des variants récemment apparus. Sont interdits les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes lourdes. La mesure a été annoncée dans le sillage d'un sommet virtuel des 27 États de l'Union européenne, un sommet qui préconise de restreindre les déplacements entre États membres face à la progression du variant de Covid détecté en Angleterre. Précision avec Pierre Benazet pour RFI.
Nous ne construisons pas un mur autour de notre pays, affirme le Premier ministre belge Alexander De Croo, mais l'ambition est évidemment d'empêcher de nouveaux événements super contaminateurs, comme l'avaient été l'an dernier les retours de vacances des Belges qui étaient allés skier dans les Alpes. La mesure vaudra du 27 janvier au 28 février, et elle est donc plus large que les seules vacances d'hiver, ou vacances de carnaval, comme les appellent les Belges, et qui ont lieu la troisième semaine de février. Les retours de vacances sont donc dans le collimateur, puisque la Belgique passe de la consigne « voyage strictement déconseillé » à « voyage non essentiel » interdit. Et pour la Belgique, la quasi-totalité de l'Union européenne est classée rouge. 6 catégories d'exemptions sont prévues pour les frontaliers, les étudiants, les voyages professionnels, l'aide à une personne dans le besoin ou les impératifs pour événements familiaux et les visites pour les parents séparés dont les enfants résident dans un autre pays. La Belgique prolonge par ailleurs de 7 à 10 jours la quarantaine obligatoire pour les voyageurs venant d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud et du Royaume-Uni.
Et il faut signaler que le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé hier que le variant de Covid-19 identifié au Royaume-Uni est non seulement plus contagieux, mais aussi jusqu'à 50% plus mortel. Le pays a recensé hier 1401 décès du coronavirus dans les 24 dernières heures. Et le spectre d'un troisième reconfinement plane toujours sur la France face au nouveau variant plus contagieux du virus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré sur TF1 que si la situation empirait, eh bien, le gouvernement serait amené à prendre des mesures plus dures pouvant aller jusqu'à un confinement. Et toujours en France, la déprime des étudiants est l'un des effets secondaires de la pandémie de Covid-19. Pour y répondre, Emmanuel Macron a proposé jeudi des repas à 1 euro pour les jours en classe ou en amphi ou des chèques pour consulter un psychologue. Une déclaration qui a été reçue par les étudiants d'une façon très mitigée. Aram Beng de RFI a été à leur rencontre.
Privés des petits boulots qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins et aussi des cours en présentiel depuis plusieurs mois, les étudiants ont le sentiment d'être délaissés par les autorités et les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne sont à leurs yeux pas suffisantes. Sur les repas à 1 euro par exemple, cette étudiante en licence trouve qu'elle ne règle pas les problèmes.
C'est pas avec un repas à 1 euro que ça va changer quelque chose. Par exemple, on dit qu'on a perdu nos travails. Moi par exemple, avant je travaillais au McDo, j'ai perdu mon travail à cause du confinement. Enfin, on préférerait avoir une augmentation des bourses ou un salaire exprès pour les étudiants, mais pas un repas à 1 euro. Enfin, surtout qu'il y a très peu de points de restaurant du Crous.
Et pour ce qui est de la possibilité de venir un jour par semaine en cours en présentiel dans les amphis, cet étudiant en master dénonce une injustice.
Quand on compare aux élèves de prépa, par exemple, qui peuvent aller du coup à l'école beaucoup plus longtemps, surtout tous les jours, un jour, ça reste quand même assez insuffisant. Quand on est déjà rodé comme moi en master, ça va, mais quand on commence en licence ou alors en bachelor, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faudrait augmenter la possibilité des étudiants de pouvoir aller justement en cours peut-être 2 ou 3 fois par semaine.
Les étudiants réclament plus de cours en présentiel, mais Emmanuel Macron les a prévenus qu'un retour à la normale dans les facultés n'est pas envisageable au deuxième semestre de l'année universitaire.
Et aux États-Unis, les chefs démocrates du Congrès américain ont annoncé hier que l'acte de mise en accusation de Donald Trump sera transmis lundi au Sénat, à qui il revient de le juger pour incitation à l'insurrection. Toujours hier, le traité d'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur. Plus de 50 pays ont ratifié le texte, sauf les États détenteurs officiels d'armes atomiques. Selon Jean-Marie Collin de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, bien, malgré que les États détenteurs officiels d'armes atomiques n'ont pas ratifié ce traité, eh bien, ce traité aura néanmoins un impact sur les États qui n'en sont pas encore signataires.
Comme tout traité international, il n'y a pas d'aspect contraignant de sanction, si vous voulez. Mais par contre, la sanction la plus importante, et c'est celle que les États redoutent, c'est bien celle de la stigmatisation. Et c'est bien pour cette raison aujourd'hui qu'un État comme la France se bat pour que ce traité n'existe pas. On ne peut pas simplement dire, parce que 9 États ne se sont pas joints face à une écrasante majorité des États du monde, que dire que ce traité n'a pas de valeur, n'a pas de portée. Ça va créer, encore une fois, une stigmatisation, des obligations juridiques, des obligations vis-à-vis des secteurs financiers de ces différents États qui vont devoir appliquer des obligations de désinvestir dans les entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. Ça va créer aussi une nouvelle image sur le désarmement nucléaire, une vraie prise de conscience que oui, ces armes sont interdites. Et donc, on ne peut pas être fier, comme l'a dit le président Macron il y a 2 jours, lors de ses vœux aux armées, de disposer d'une dissuasion nucléaire.
Et quelques nouvelles en bref du continent africain. Eh bien, le taux de mortalité imputable au coronavirus en Afrique dépasse la moyenne mondiale. Lors de la première vague, c'était l'inverse. L'Afrique demeure certes l'un des continents les moins affectés par ce virus tueur, mais ce retournement de conjoncture sanitaire a de quoi alarmé. Et l'opposant Bobi Wine ougandais s'est exprimé lors d'un live sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce des résultats des élections générales et la réélection contestée du président sortant Yoweri Museveni pour un 6e mandat. Bloqué à son domicile depuis samedi dernier, l'opposant Bobi Wine a appelé les Ougandais à rejeter le résultat du scrutin. Et l'inquiétude plane dans le monde syndical togolais. En effet, depuis quelques jours, plusieurs syndicalistes, enseignants, membres d'une centrale nouvellement créée, ont été arrêtés par la gendarmerie. Et retour en Australie pour un coup d'œil météo à travers le pays. Bien, Perth 28 degrés, Adélaïde 38, Melbourne 27, Hobart 25, Canberra 37, Wollongong 28, Sydney 29, Newcastle 33, Brisbane 30, Cairns 32 et Darwin 32 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Le gouverneur général voudrait réviser le processus de sélection des récipiendaires des plus grandes distinctions honorifiques d'Australie. Et en France, un 3e confinement paraît inévitable. Et le nouveau mutant du coronavirus paraît plus contagieux et meurtrier. C'est tout pour l'actualité. À présent, une courte pause avant de passer à l'actualité sportive. Dans l'actualité sportive de ce samedi, on commence avec le football et plus précisément la Ligue 1, le championnat français dont se jouait cette semaine et tout le long du week-end et jusqu'au lundi 25 janvier prochain, la 21e journée du championnat. En match avancé, jeudi soir, Lens a battu Marseille 1-0. Et tôt ce matin, le PSG a battu Montpellier 4-0. Il faut souligner que Montpellier comptait un joueur de moins suite au carton rouge de Jonas Omlin à la 19e minute. Au tableau de cette 21e journée de la Ligue 1 ce week-end, Lens joue contre Nice demain. Monaco jouera contre Marseille et Angers sera en déplacement à Bordeaux. Il y a pas moins de 5 rencontres qui se joueront lundi soir, dont le très attendu derby entre Saint-Étienne et Lyon. Eh bien, Rémi Ngono de Radio Foot International voit Lyon largement dominer cette rencontre.
Lyon, quand même, c'est une très bonne équipe, mais je ne pense vraiment pas que ce sera un derby qu'on attendait. Je crois que Lyon aura à cœur de pouvoir surmonter justement la mésaventure ou alors la contre-performance qu'il a eu à produire face à Metz. Donc je vois largement Lyon dominer.
Et toujours au football français, le PSG a présenté des prévisions de pertes à hauteur de 204 millions d'euros pour la saison 2020-2021. Afin de limiter ces pertes, le club compte sur des ventes de joueurs et c'est la mission principale du directeur sportif du PSG au même titre que les prolongations des contrats de Neymar et Kylian Mbappé. Il faut souligner que le directeur sportif parisien a confié que vendre des joueurs n'était pas son terrain de jeu favori pendant les périodes de mutation. Et toujours au football, il faut signaler que Cristiano Ronaldo a battu le record du plus grand nombre de buts marqués dans une carrière. L'attaquant a marqué son 760e but pour la Juventus, propulsant du coup son équipe non seulement à la victoire contre Naples, mais aussi ils ont remporté la couronne de la Supercoupe. Dans un message sur Twitter, Ronaldo s'est dit très heureux d'avoir été sacré 4 fois champion en Italie. Le record du plus grand nombre de buts en compétition était détenu jusqu'à présent par Joseph Bican. Bien, Ronaldo l'a égalé le 10 janvier dernier avant de le pulvériser cette semaine. Selon nos confrères de Radio Foot International, malgré son couronnement à la Supercoupe, la Juve est quand même un club affaibli car en pleine transition.
Un champion qui est dans une phase de transition. Et cette phase de transition, elle a été d'autant plus perturbée qu'il y a eu 3 entraîneurs qui se sont succédés en 3 ans sur le banc de la Juve. On a essayé quelque chose de nouveau avec l'entraîneur napolitain qui a pas duré. Maintenant, c'est Pirlo qui connaît bien la maison, mais qui n'a pas non plus d'expérience. Et donc du coup, on sent que ça tâtonne beaucoup au niveau du jeu. Et c'est ça le plus perturbant pour les joueurs, c'est qu'on a beaucoup de joueurs de talent, on les connaît, et ils sont tous internationaux, et puis ça change tout le temps, et il n'y a pas le résultat. C'est vrai que pour le moment, on est déçus de ce que Pirlo fait produire à cette Juventus.
Et puis on a surtout un Ronaldo qui plane à 15 buts et qui est en tête du classement des buteurs. Derrière, il n'y a quand même personne.
Oui, mais
je regardais le deuxième meilleur buteur, 5 buts, c'est Chiesa.
Oui, mais justement, le problème, c'est que Ronaldo est un peu seul. Et finalement, quand on regarde les statistiques, la Juventus est loin d'avoir la meilleure attaque parmi les équipes des premières moitiés du championnat. C'est plutôt une des plus faibles attaques. Donc, on peut avoir un très bon buteur et ne pas être une équipe très performante offensivement.
Football toujours, mais cette fois-ci, on fait un saut en Australie. Donc, on parle encore du ballon rond, donc de la A-League. Cette semaine, c'est joué la 5e semaine du championnat australien. Hier, en match avancé, les Central Coast Mariners en déplacement ont battu Sydney FC 2-0. Et plusieurs matchs au tableau de cette 5e semaine du championnat australien se jouent ce samedi après-midi. Il y a les rencontres entre Adelaide United contre Melbourne Victory, Western United FC jouera contre Perth Glory et demain dimanche, Wellington Phoenix jouera contre les Newcastle Jets. Et toujours au football australien, le gardien de but des Socceroos, Matt Ryan, s'est dit très fier de pouvoir jouer pour une équipe de la Premier League qu'il supporte depuis son enfance. Il s'agit d'Arsenal. Âgé de 26 ans, Matt Ryan évolue à Brighton et il vient d'être prêté à Arsenal comme suppléant de Bernd Leno.
There's still an air of sort of surrealness to it all, to be honest. All those sort of mornings as a young kid in Australia, getting up to watch the Champions League games and all that, 4 o'clock in the morning and all that when I had school, and to now be here is, fills me with a great sense of pride and, you know, achievement, and I'm just looking to do my best that I can for the club.
Et l'entraîneur de moins de 23 ans australien estime que la pandémie de coronavirus pourrait être une aubaine pour les Oleros et pourrait même leur permettre de remporter une médaille aux prochains Jeux Olympiques. Graham Arnold a ajouté que la sélection des joueurs a été enrichie grâce à l'expansion de la A-League cette saison et l'émergence de nombreux joueurs locaux. Il faut rappeler que les JO ne sont pas encore confirmés en raison de la pandémie et si tout allait bien, ils devraient se dérouler dans 6 mois. Et justement, s'agissant des Jeux Olympiques, les organisateurs des JO de Tokyo et le président du Comité international olympique ont démenti les informations selon lesquelles les JO d'été reportés pour cause de pandémie seront purement et simplement annulés. Reportés pour cause de pandémie, les JO étaient prévus il y a 10 mois de cela, mais devraient débuter le 23 juillet prochain. Tokyo, la capitale japonaise, ainsi que plusieurs villes du pays sont en état d'urgence pour cause de la résurgence des infections de coronavirus. Cependant, le premier ministre Yoshihide Suga se dit confiant que les JO auront bel et bien lieu.
The Tokyo Olympics and Paralympics in the summer will be proof that humankind has overcome the coronavirus and an opportunity to share our recovery from the 2011 earthquake and tsunami with the world. We are determined to take all possible measures against infection to produce a tournament that delivers hope and courage to the world.
Il faut rappeler qu'au mois de mars dernier, au moment où la première vague du coronavirus se propageait à travers le monde, le comité international olympique avait pris la décision sans précédent de reporter les Jeux juste après l'annonce par l'Australie et le Canada de leur intention de ne pas envoyer leurs sportifs aux Jeux de Tokyo qui devaient s'ouvrir en juillet 2020. Et un mot de tennis, Ash Barty va lancer la saison de tennis estivale d'Australie, une saison qui, il faut le rappeler, est déjà en retard. Ash Barty a confirmé qu'elle fera son retour très attendu sur le court la semaine prochaine dans un tournoi d'exhibition à Adélaïde aux côtés des plus grosses pointures du tennis mondial. Côté femmes, en plus de la première joueuse mondiale, donc Ash Barty, on signale la présence de la numéro 2 mondiale, Simona Halep. Naomi Osaka, troisième joueuse mondiale, sera aussi de la partie, ainsi que Serena Williams, qui à elle seule compte 23 couronnes de Grand Chelem. L'événement, connu sous le nom de A Day at the Drive, se tiendra le 29 janvier prochain et on y attend également les trois premiers joueurs côté hommes, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem. Mais les regards seront tournés vers l'adolescent italien Jannik Sinner, classé 26e joueur mondial. Toujours au tennis, mais en dehors des cours, Ash Barty s'est excusé hier après avoir été aperçu en train de faire des courses dans un supermarché de Melbourne sans masque. La première joueuse mondiale dit avoir oublié son masque après une séance d'entraînement à Melbourne Park. En présentant ses excuses, Ash Barty a souligné que tout le monde doit faire un effort pour préserver le bien-être commun et elle va s'évertuer à mieux faire. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi. Après la pause, on passe à la suite du programme. A tout de suite.
Je ne vous supplierai jamais. Je ne vous supplierai jamais, même si mon nom ne vous dirait rien.
Et c'était Je ne t'oublierai jamais par Morgane sur la radio SPS, le service en français. Bien, après la pause, on va passer à un événement qui s'est passé en 23 janvier dans notre rubrique rétro. Donc, c'est un événement qui s'est passé en 23 janvier, plus précisément en 1983. Et ce jour-là, Björn Borg, le grand tennisman suédois, annonçait qu'il prenait sa retraite. A tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
«
Nous sommes le 23 janvier, notre rétro du jour, donc du 23 janvier, direction l'année 1983. Björn Borg, le joueur de tennis, annonçait qu'il mettait fin à sa carrière. Le monde du tennis le pressentait depuis plus d'un an, depuis ses défaites en 1981 contre John McEnroe en finale de Wimbledon et de l'US Open. Björn Borg et sa raquette en bois tentera de revenir 10 ans plus tard, mais ce retour sera un échec. La vraie carrière de Björn Borg s'est donc arrêtée le 23 janvier 1983. Il avait 26 ans, c'est notre rétro sonore du jour.
Madame, Monsieur, bonsoir. La retraite à 26 ans, Björn Borg renonce au tennis professionnel.
Classic battle with John McEnroe, the then unbeatable Borg won his fifth straight Wimbledon title. Even a sensational 18-16 tiebreaker captured by McEnroe didn't unnerve the Swedish man of steel.
Il a 26 ans, il est beau, il est riche et il veut enfin profiter de la vie et de la fortune qu'il a amassée dans le tamis de sa raquette. Björn Borg, c'est officiel, se retire de la compétition en 10 ans, 6 victoires à Roland-Garros, 5 à Wimbledon, une Coupe Davis, 2 Masters.
There was one last hurrah, the US Open, a Grand Slam title that eluded him despite making it to the finals 3 previous times. McEnroe would deny him a fourth time. It would be the last serious tennis for Björn Borg.
La manière Borg, c'est ça. Regardez bien la torsion du poignet de Borg. Et regardez bien surtout le tournoiement de la balle. Encore plus évident sur le coup droit. Et n'oubliez pas que c'est cette balle-là que les adversaires doivent renvoyer. On leur souhaite bien du plaisir.
I was struggling the whole year 81, mentally. It was very difficult year. And still I was playing pretty good tennis. But still mentally was slipping away slowly that year. So I realized at the beginning of that year that probably I will stop playing tennis before many people knew that I will.
Björn Borg a régné en demi-dieu sur les cours, il a bouleversé le tennis mondial. Son portrait côté cours et côté jardin, Roger Zabel.
Ilina Stas disait de lui lorsqu'il était à son meilleur niveau, ce n'est pas un joueur de tennis, c'est un extraterrestre. Le seul moyen de venir à bout de cette espèce d'ovni, c'est de la battre. Après avoir gagné effectivement 6 fois Roland-Garros, 5 fois Wimbledon, une Coupe Davis, 2 Masters, Björn Borg décide au début de l'année dernière de prendre du recul. Depuis l'âge de 16 ans, sa vie se résume en 3 mots, tennis, dollars, dodo. Il prend 8 mois de vacances, puis revient à la compétition à Monte-Carlo où il est battu par Noah. Borg se consacre ensuite aux exhibitions, et fin 1982, au mois de décembre, à Anvers, c'est le deuxième retour du champion.
Then in 1982, in Monte Carlo, a shocked tennis public couldn't believe the news that Borg was retiring, packing his bag for the last time.
Oh yeah, that's, I mean, I always, for the last 10 years, it was fun for me to play tennis. That's why, the reason why I'm retiring, because it's not as, you know, fun as it used to be.
Et c'est pas son jeu. Son jeu, malheureusement, est un jeu très très simple. C'est un jeu ridicule simple, le jeu de Borg. Parce que Borg, il vit sur deux coups. Coup droit et de revers avec deux mains, et c'est tout. Rien du tout d'autre. Tout le monde comprend rien, malheureusement, que Borg, il a une qualité incroyable sur les autres. Qu'il bouge mieux que n'importe quel joueur que j'ai vu dans les dernières 25 années. Il bouge mieux qu'Anastas, il couvre le corps mieux que n'importe qui.
Et pourtant, il était si bien sur ce court où il a mis fin au tennis académique pour créer le tennis efficace que tant de jeunes tentent d'imiter. Borg a gagné 2,5 milliards de centimes en compétition officielle entre 1973 et 1981, sans compter bien sûr tous ses contrats d'équipement et de publicité. Et dans ce match entre le champion Borg et l'homme Borg, c'est l'homme qui l'a finalement emporté.
Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars. Et la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je ? Le gentleman ou le rebelle ?
Mesdames, messieurs, John McEnroe. Vous et Borg, vous êtes humainement, diamétralement opposés, n'est-ce pas ?
Et vous revenez sans arrêt à Borg, il est en coulisses, c'est une surprise, est-ce qu'il va bondir de sa cage ?
Il est bourré de superstitions. Il a des rituels. Je te le dis, mec, pour eux, c'est une putain de religion.
Je pense que je suis, comme tout le monde, je suis pas une machine.
Putain ! On dit que c'est un iceberg, mais en réalité, c'est un volcan. Il garde tout en lui. Jusqu'à ce que ça pète.
Vous avez votre héros, votre gentleman Borg, et il vous faut un vilain petit canard.
Ces putains de pigeons foutent en l'air ma concentration, vous comprenez ?
C'est comme si je m'attendais. Comme si j'espérais ma chute.
Tu vas le battre, ce joueur.
Tout le monde parle comme si c'était facile. Allez, vas-y, Björn, tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre. C'est là-dedans que ça se passe. Là-dedans.
Tu seras numéro 1, mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur. Tu sais pourquoi ? Parce
parce que personne ne t'aime.
Serez-vous capable de vous contenir?
Ça suffit, ferme ta gueule.
Aïe, contre l'irascible Big Mac.
Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de cours. Et ça, vous pouvez pas comprendre, le cul sur vos chaises.
Je bossais toutes ces années avec l'idée qu'un jour j'accéderai à ce moment précis.
Mécanique Borg. Ice Borg, comme disent les Anglais, un peu par humour, mais beaucoup au fond par souci de réalisme. Car c'est bien vrai que sur un cours, Borg ressemble à une montagne de glace. Qu'il gagne un point ou qu'il le perde, pas un trait de son visage ne bouge. Oubliez dans ces instants-là les plaisirs de la vie, si tant est qu'il en ait. Oubliez dans ces instants-là l'école d'une banlieue de Stockholm qu'il a quittée à 15 ans pour devenir un champion. Oui, dans ces instants-là, Borg n'est plus un être humain.
Winning, because that's the best feeling a tennis player has. Winning, to win that last point. And especially in the championship. I mean, that's a wonderful, that's the best moment for a tennis player.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On pense encore à toi, Corona.
Et c'était le medley du confinement avec les Goguettes, un morceau très très amusant et très rigolo, parce qu'il faut quand même continuer à vivre et à rigoler un peu, malgré la crise sanitaire qui nous menace. Bien, à présent, on va passer à la rubrique Europa, 73e édition. Et cette fois-ci, on va voir ce qui se passe aux États-Unis avec l'inauguration au courant de la semaine passée de Joe Biden comme 46e président des USA. Eh bien, Europa analyse cette semaine ce à quoi l'Europe devrait s'attendre de l'administration Biden. Cette rubrique, tout de suite après la très courte pause.
Europa Voice numéro 73, sous le soleil de Melbourne. Je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Allez, premier Europa Voice de l'année 2021, sous le soleil l'été australien, comme je disais. On ne peut pas ne pas parler dans Europa Voice de l'élection du président américain Joe Biden, élection officialisée avec la cérémonie d'investiture donc de Joe Biden. Qu'est-ce que Joe Biden peut changer pour l'Europe ?
Alors, on va prendre la question dans l'autre sens, Christophe. C'est l'Union européenne n'a même pas attendu la cérémonie d'investiture avant de se féliciter d'avoir Joe Biden comme nouvel interlocuteur. Et donc, pour l'Union européenne, l'idée, c'est vraiment de proposer à Joe Biden un nouveau pacte fondateur transatlantique. Alors, il y a deux idées hein, quand Ursula von der Leyen ou quand Charles Michel avance ces mots le matin même de la cérémonie d'investiture. D'abord, il y a évidemment une rupture avec la présidence Trump et avec la relation Union européenne-États-Unis telle qu'on l'a connue pendant le mandat de Donald Trump. Mais il y a surtout la volonté pour l'Union européenne de faire revenir les États-Unis, quoi qu'il en coûte, en tout cas quel que soit le président, à la table des négociations, à la table de ce qu'on pourrait appeler le multilatéralisme. L'Union européenne a vraiment besoin que les États-Unis reviennent au sein des organisations internationales. Et d'ailleurs, Christophe, une des premières décisions, à la fois très symbolique, mais aussi très pragmatique, ça a été le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Peut-être la première décision de politique internationale partagée par Joe Biden le jour de son investiture.
Avec le welcome back, le tweet welcome back d'Emmanuel Macron. Les annonces d'ailleurs qui avaient été préemptées quand même de la part de l'équipe de Biden, on savait à peu près les premières intentions. On savait que dès le premier jour, il allait se mettre au travail. On savait dans quelle direction ce qui allait changer très rapidement, y compris ce qui allait changer pour la relation avec l'Europe.
Oui, et c'est ça, Christophe, qui est intéressant. C'est qu'à la fois, il y a cette volonté européenne de voir revenir le partenaire américain autour de la table de négociation. Mais il y a en même temps une fermeté d'Ursula von der Leyen, de la présidente de la Commission, d'asseoir ce qui avait été théorisé par les dirigeants européens à la fin de l'année 2020, à savoir l'autonomie stratégique. Ça a été un pacte fondateur, Christophe, qui avait été avalisé par les 27, donc les 28 moins le Royaume-Uni fin 2020. C'est en fait 4 ou 5 grands dossiers sur lesquels l'Union européenne veut montrer qu'ils avancent ou qu'elle avance unie. C'est à la fois la lutte contre le changement climatique, le renforcement de la coopération multilatérale, le combat évidemment contre la Covid-19, contre la pandémie, bien sûr la reconstruction des économies, du commerce, et en dernier lieu, tout ce qui a trait à la transformation, à l'accélération numérique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont les Européens ont communiqué au moment de l'investiture de Joe Biden, il y a à la fois cette volonté de voir le partenaire américain revenir autour de la table, mais aussi de lui dire, voilà, maintenant, l'Europe est plus unie qu'avant. C'est vrai, pendant la mandature de von der Leyen, on l'a vu, hein, les Européens ont su, et notamment au moment de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, réagir ensemble, construire quelque chose ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, et on en parlera dans cette deuxième partie d'Europa Voice, notamment autour du passeport vaccinal. Mais en tout cas, il y a aussi cette volonté, en même temps que d'accueillir le partenaire américain, de montrer qu'aujourd'hui, l'Union européenne des 27, débarrassée du fardeau du Brexit, a cette volonté d'avancer comme un seul homme face ou avec le partenaire américain.
Alors, vous mentionnez le Brexit, c'est aussi intéressant de voir les réactions de quelqu'un comme Boris Johnson, il s'est félicité de l'arrivée de Joe Biden assez ouvertement. Pourtant, il n'était pas vraiment un des plus grands critiques de Donald Trump. Il l'avait reçu en Grande-Bretagne. Donald Trump avait l'air d'être un allié des Britanniques. Mais là, Joe Biden l'est également. Est-ce que c'est justement ce qui démarque un peu les Européens et les Britanniques? C'est que les Britanniques sont un peu les amis avec tout le monde, surtout quand on est américain.
Ce qui va changer là, Christophe, pour les Britanniques, c'est évidemment que maintenant ils sont exclus de cette unité, hein, de ce pacte fondateur européen. Donc ils doivent négocier des traités bilatéraux, nouer des relations diplomatiques, j'allais dire pays par pays, entité par entité. Et donc effectivement, on sait que Boris Johnson et Donald Trump avaient développé une certaine proximité, mais Boris Johnson va devoir aussi travailler avec Joe Biden. Ce qui est vrai aussi, Christophe, c'est que Joe Biden, il va de toute façon aussi moins se tourner vers ce qu'on pourrait appeler la vieille Europe, même s'il y a une volonté que ça redevienne un allié, un partenaire, que les États-Unis reviennent dans le jeu multilatéral. Mais on sait aussi que Joe Biden, il va se tourner vers des économies comme le Japon, comme l'Inde, comme l'Australie, voilà, vers ces nouveaux marchés-là. Donc pour les Britanniques, c'est peut-être d'être considéré comme une entité en dehors de l'Union européenne, à être prise en compte par Joe Biden sur l'ensemble des dossiers internationaux.
Le fameux Singapour européen, c'est ce que les Britanniques voudraient avoir. Après, il ne faut pas vraiment se voiler la face. Joe Biden va sûrement changer, enfin Joe Biden et son équipe, Kamala Harris et toute son équipe vont changer les choses. Joe Biden, par contre, ça reste un président américain avec des intérêts américains qui ne sont pas forcément liés ou alignés 100% avec la politique européenne, loin de là.
Je crois que c'est très important ce que vous dites, Christophe. C'est évidemment, il va y avoir dans l'attitude de Joe Biden quelque chose de plus constructif par rapport à ses alliés. En d'autres termes, il y aura une volonté bien moindre de faire cavalier seul, comme ça avait pu être le cas de Donald Trump à l'époque. Mais vous l'avez dit, Joe Biden, il reste un président américain. Et même si la relation, elle va être plus constructive, on sait déjà qu'il va y avoir quelques dossiers extrêmement tendu, ou en tout cas des dossiers sur lesquels il va falloir qu'il y ait des accords trouvés entre les Européens et les Américains. On peut en citer quelques-uns de ces dossiers brûlants. Il y a d'abord tout simplement au niveau industriel, il va toujours y avoir des rivalités, si je prends l'exemple de l'aéronautique, entre les mastodontes Boeing et Airbus. Voilà, c'est pas une rivalité industrielle, commerciale qui va s'éteindre du jour au lendemain. Il y a la question aussi des GAFA, de la taxation du numérique. Si on résume, en fait, la plupart des GAFA, les GAFA sont des géants américains, et c'est sur le territoire européen qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc ça aussi, c'est des dossiers sur lesquels Joe Biden et ses alliés européens vont devoir s'entendre. Donc effectivement, il y a une volonté avouée, assumée. Et d'ailleurs, le mot unité, il a été repris beaucoup de fois par Joe Biden lors de son discours d'investiture. Il y a cette volonté d'unité à la fois nationale, sur le sol américain, sur la scène domestique, mais il y a aussi cette volonté de faire preuve de plus d'unité avec ses alliés. Mais il y a toujours des dossiers sur lesquels il va falloir se remettre à la table des négociations et trouver des accords. Et puis aussi, on sait donc qu'il y a cette volonté des Américains de revenir au sein des institutions multilatérales, l'OMS, pardon, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'accord de Paris, l'OTAN. Hein, on avait vu hein, sous la présidence de Donald Trump que ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau des dépenses militaires, était critiqué par Donald Trump. En gros, les États-Unis, ils trouvaient Donald Trump que les États-Unis mettaient beaucoup trop la main à la pâte par rapport à ce qu'ils recevaient de cette collectivisation de la défense. Bon, les États-Unis sont aussi attendus au sein de l'OTAN, mais par contre, par exemple, sur la question du nucléaire iranien, là, on sait que ça va être beaucoup plus difficile que les États-Unis reviennent à la table des négociations, notamment au vu des différents enrichissements en uranium qu'il y a eu ces dernières années en Iran. Donc effectivement, tout n'est pas acté. C'est un work in progress entre les États-Unis et leurs alliés.
Il y a la question de la Corée du Nord aussi, où Donald Trump avait quand même lié quand même certains liens avec les autorités de la Corée du Nord. Est-ce que ça va pouvoir durer ou pas? C'est une des questions aussi qui reste en suspens.
Corée du Nord, Christophe, et même Chine, hein, si on prend juste en miroir l'Union Européenne, on sait qu'il y a des accords et des rapprochements qui ont eu lieu entre l'Union Européenne et la Chine à la fin de l'année dernière, et c'est extrêmement critiqué même au sein de l'Europe, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu ces accords, ce rapprochement en vue de l'investiture américaine pour justement faire un peu pression sur les États-Unis, mais on sait aussi que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il soit réglé avec à la fois les acteurs européens, américains et chinois sur les questions tarifaires, de commerce, etc. Donc j'allais dire, le point positif, c'est qu'on part sur des bonnes bases, on part sur une volonté politique commune, et ça, je crois que c'est un liminaire important quand les acteurs autour de la table ont un projet, ont une volonté politique commune. Maintenant, la question, c'est de savoir comment cette volonté politique, elle va pouvoir se décliner. Et finalement, j'allais dire, pour moi, la plus grande crainte de ce mandat Biden, c'est un petit peu le over-promise, under-deliver qu'on avait vu sous Barack Obama, où pour différentes raisons, certaines d'ailleurs plus symboliques que politiques, il y avait eu beaucoup d'attentes sur Barack Obama, et puis finalement certaines déceptions, notamment sur la politique et la diplomatie internationale. On l'a vu, hein, Donald Trump a peut-être fait en quelques semaines avant la fin de son mandat bien plus que le président démocrate en 8 ans.
Et avant de passer purement sur la Covid-19 et le coronavirus, juste un mot sur les États-Unis et la crise là-bas au niveau du Covid-19. Comment Joe Biden peut changer les choses, et est-ce que ça peut avoir aussi un effet sur la relation avec l'Europe, parce que on sait qu'il peut y avoir une bataille sur les vaccins, par exemple. Est-ce que ça, Joe Biden peut rentrer dans cette course, la course aux vaccins, si jamais il y a besoin, ou est-ce que la politique américaine est déjà alignée sur ce qui va devoir être fait et que ça va pas forcément trop changer?
Alors le premier élément, Christophe, pour ça, c'est encore une fois, on sait que Donald Trump avait dit, hein, qu'il voulait retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, une décision qui aurait dû être effective en juillet prochain. Je dis qu'il aurait dû parce qu'on sait déjà que Joe Biden ne veut pas que les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé. Donc déjà ça, au moment où il y a une gestion planétaire de la pandémie, déjà ça, c'est un indicateur assez positif de la volonté de Joe Biden de ne pas faire d'isolationnisme en termes de, j'allais dire, de gestion de la pandémie, et peut-être, ça il est trop tôt encore pour le dire, et peut-être de vaccins. L'autre point sur cette question-là, c'est qu'on a aussi eu il y a quelques jours l'immunologue et le conseiller à la Maison Blanche en charge de la Covid-19, Anthony Fauci, qu'on a beaucoup vu à la télévision. Lui, il a confirmé aussi que les États-Unis respecteraient leurs obligations financières vis-à-vis de l'organisation. Donc ça aussi, c'est un signal qui est quand même assez positif, que les États-Unis s'engagent à mettre la main au panier pour financer ce qui va devoir être financé en termes de vaccins, etc. Donc pour l'instant, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour vraiment dessiner les contours de la stratégie vaccinale aux États-Unis. En tout cas, il y a ces deux premiers signaux extrêmement positifs de la volonté de Joe Biden et de son équipe de faire équipe dans la lutte contre la pandémie et la Covid-19.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Merci Internet.
Merci Christophe.
Et c'était Isée de Christine Salem. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité. Le gouverneur général voudrait réviser le processus de sélection des récipiendaires des plus grandes distinctions honorifiques d'Australie. En France, un troisième confinement paraît inévitable. Et le nouveau mutant de coronavirus paraît plus contagieux et meurtrier. Et voilà, c'est tout pour cette édition du programme en français de ce samedi 23 janvier. Merci de votre compagnie. Le prochain programme, ce sera demain dimanche et il vous sera présenté par Jean-Noël Ducasse. Bon week-end et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.